Ils sont pas nombreux ce matin. Alors on va retrouver le livre des rois qu'on avait commencé. Le titre du message est le suivant. Dieu donne ce dont nous avons besoin et Jésus est plus grand que Salomon. Alors servons Jésus. Petit mot d'introduction dont vous pouvez chercher tranquillement le premier livre des rois, chapitre 3. Alors, je ne sais pas si vous êtes royaliste ou républicain. Vous allez peut-être répondre républicain, comme Donald Trump. Ouais. C'est vrai que la République est ce que les hommes ont trouvé de mieux pour, ou du moins de moins mauvais, pour arriver à gérer les pays et pour que tout le monde soit de même pied, d'égalité. Mais un bon roi, qu'est-ce que ça pourrait être que d'avoir un bon roi? C'est ce qu'on va avoir ensemble ce matin. On va se plonger 3000 ans en arrière. Voir le début d'un jeune roi qui s'appelait Salomon, le fils de David, dans le pays d'Israël. Alors, on va regarder, couvrir les chapitres 3 et 4 ce matin, ce qui est assez long comme lecture à faire, et comme je ne suis pas doué en langue, j'ai choisi de le faire, de passer par un enregistrement. Il y a beaucoup de noms, vous verrez. On va le faire en trois fois. Hein. Donc on va d'abord, au chapitre 3, s'intéresser du verset 1 au verset 15.
Salomon s'allia par mariage avec le pharaon, roi d'Égypte, en épousant sa fille. En attendant d'avoir fini de bâtir son palais, le temple de l'Éternel et le rempart autour de Jérusalem, il l'installa dans la cité de David. Seulement, en ce temps-là, le peuple continuait à offrir des sacrifices sur les hauts lieux, car on n'avait pas encore construit le temple pour l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et se conformait aux instructions de son père David. Seulement, lui aussi offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Un jour, le roi se rendit à Gabaon, où se trouvait alors le haut lieu le plus important pour offrir un sacrifice. Il fit immoler 1000 holocaustes sur cet autel. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut là, en songe, et lui dit « Demande ce que tu désires que je t'accorde. » Salomon répondit « Tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père, parce qu'il vivait fidèlement selon ta volonté, de façon juste et avec un cœur droit. Tu lui as conservé cette grande bienveillance, et tu lui as accordé un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. Maintenant, Éternel, mon Dieu, c'est toi qui m'as fait régner, moi ton serviteur, à la place de mon père David, alors que je ne suis encore qu'un tout jeune homme et que je ne sais pas gouverner. Voilà ton serviteur au milieu de ton peuple que tu as toi-même choisi, un peuple nombreux qui ne peut être dénombré ni compté tant il est nombreux. Veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture, eh bien, je vais réaliser ton souhait. Je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence comme à personne dans le passé ni dans l'avenir. De plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, de sorte que pendant toute ta vie, aucun roi ne t'égalera. Enfin, si tu marches dans les chemins que j'ai prescrits, si tu obéis fidèlement à mes lois et à mes commandements, comme ton père David, je t'accorderai aussi une longue vie. » Salomon s'éveilla avec ce rêve présent à l'esprit, et il revint à Jérusalem. Là, il alla se présenter devant le coffre de l'Alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes, présenta des sacrifices de communion et donna un festin auquel il invita tous ses hauts fonctionnaires.
Demande-moi ce que tu veux que je te donne. C'est la phrase qui est ressortie, que je vous propose pour cette première partie. Et au verset 3, on a entendu Salomon aimer l'Éternel. La loi de Moïse n'envisageait qu'un seul lieu de rencontre avec l'Éternel. On lit ça en Deutéronome 12, 11. Mais les hauts lieux sont apparus du temps des juges. Et quand on fait le fil de l'histoire, on voit que les éléments qui constituaient le tabernacle ont été dispersés en différents endroits en Israël. La lutte contre les hauts lieux est une constante dans tout le livre des rois, et on le voit ici sous la plume du lecteur. Mais Dieu ne tient pas rigueur à Salomon de venir à sa rencontre dans un haut lieu. Le lieu de rencontre était en effet au niveau de l'arche de l'Alliance, entre les chérubins, au niveau du propitiatoire. C'était là qu'était désigné comme étant le lieu de la présence de Dieu, comme Dieu était au milieu de son peuple. Salomon aimait l'Éternel. Et c'est vrai que bien souvent on peut être ignorant de, quand on cherche Dieu, on peut le faire de façon décalée, mais de façon peu orthodoxe, mais Dieu ne tient pas rigueur de cela. Dieu regarde à notre sincérité et il vient à nous comme il l'a fait pour Salomon. Vous avez noté qu'après cette rencontre avec Dieu, Salomon s'est rendu au bon endroit. Il a été rendre grâce à Jérusalem, là où le faisait David, là où était déposée l'arche de l'Alliance. Salomon aimait l'Éternel. Salomon était un roi humble également. Il est désigné par Dieu pour prendre la suite de son père David, et il sait que sa position de roi, il la doit à la bienveillance qu'avait manifesté Dieu envers son père David. Il réalise également son incapacité à conduire le peuple de Dieu. Il se voit jeune, il se voit inexpérimenté pour cela. On voit également que la demande de Salomon, elle s'adresse pour le peuple de Dieu, pas pour lui-même. Il ne demande pas quelque chose pour lui-même, et Dieu le souligne. Tu n'as pas demandé la richesse, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Il a exprimé le besoin qu'il ressentait pour accomplir sa tâche de roi. Il avait été désigné roi et il avait besoin de la sagesse de Dieu, et c'est ce qu'il demande. Sa demande, c'est pour accomplir son rôle de roi. La demande de Salomon est pour le peuple de Dieu. Et Salomon également est à la fois, bien que ce ne soit qu'un rêve qu'il ait eu, il croit à l'accomplissement de ce que Dieu lui a révélé par songe. Et avant même de voir son accomplissement, il remercie Dieu et il lui offre par anticipation, un festin à ses serviteurs. Dans ce passage, donc nous sommes un roi, chapitre 3, dans ce passage, Dieu est celui qui donne, car c'est de lui que viennent toutes choses. Tout est à Dieu. On voit qu'il a donné à Salomon une sagesse comme aucune personne avant lui et après lui allait avoir sur la terre. Et il lui a donné également une très grande richesse. Dieu n'a pas de difficulté pour faire de Salomon le roi le plus sage qui ait connu l'humanité, ni de faire de lui le roi le plus riche de son temps. Celui qui donne la sagesse est plus grand que la sagesse. Celui qui donne la richesse est plus grand que la richesse. Et c'est vrai qu'il faut se garder d'adorer la bénédiction plutôt que d'adorer celui qui donne la bénédiction. Gardons-nous de voir en Dieu un bénisseur. Et c'est souvent comme cela que l'on peut le voir. On a besoin de bénédiction et on s'adresse à lui. Non, Dieu est celui qui tient le monde dans sa main. Tout est à lui. Tout est pour lui. C'est à lui que nous pouvons adresser nos demandes. C'est à Dieu. Présenter nos demandes à une autre personne qu'à lui est quelque part quelque chose de stupide, puisque c'est lui qui a toutes choses. Autant demander à Dieu ce dont nous avons besoin. C'est lui. Et la Bible qualifie d'insensé ce qui cherche ailleurs qu'en Dieu le secours pour leur vie. Et pourtant, dans la réalité, bien qu'on le sache intellectuellement, bien souvent on préfère l'eau de la citerne à l'eau de la source d'eau vive. Dieu est celui qui donne, car c'est lui qui a toutes choses. Alors, pouvons-nous demander à Dieu comme Salomon l'a fait? Et si nous pouvons demander à Dieu, qu'est-ce que nous devons lui demander? Le Seigneur a enseigné, Luc 11, 9, « Demandez et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira. » Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. 1 Jean 5, 14, 15. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. La sagesse de Dieu ne s'est pas épuisée avec la demande de Salomon il y a 3000 ans. Aujourd'hui encore, quand nous lisons l'épître de Jacques, nous lisons ceci. Si quelqu'un d'entre nous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il le demande avec foi, sans douter. Jacques chapitre 1 verset 5. Que demander? On peut demander la sagesse, on a tous besoin de sagesse. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on peut demander? Selon l'exemple de Salomon, demander quelque chose qui est utile à l'accomplissement de notre destinée, de notre vie ici-bas, de l'appel de Dieu. Chacun d'entre nous avons une vie qui lui est propre. Nous ne sommes pas, ou du moins à ma connaissance, il n'y a aucun roi parmi nous. Et est-ce que vous avez envie d'être roi? Est-ce que c'est quelque chose, une vie qui vous conviendrait? Quand on voit la fin qu'a eu Salomon, je n'ai pas envie de la vie de Salomon, je dois dire. Dieu nous donne à chacun une vie qui lui est propre et dans la plupart des cas, on aime la vie que l'on a. Qu'ai-je besoin pour accomplir ma vie? Il ne s'agit pas de son épanouissement personnel, non, pas du tout. Mais ce dont j'ai besoin pour accomplir la destinée que Dieu me donne, pour accomplir ce qu'il a prévu que je fasse de ma vie, pour que lui soit glorifié et pour que mon prochain soit béni. Qu'est-ce que j'ai besoin pour que Dieu soit glorifié à travers ma vie et pour que mon prochain en soit béni? Je vous propose une minute de réflexion maintenant sur ce sujet. Peut-être je ne me suis pas bien fait comprendre, mais quel est, exprimé autrement, quel est notre plus grand besoin? De quoi avons-nous besoin ici-bas pour accomplir la volonté de Dieu que nous savons pour notre vie? Alors nous sommes tous dans des situations différentes, on est peut-être père ou mère de famille, on est peut-être dans le travail, on a peut-être toutes sortes de choses, de situations où Dieu nous a placés, on sait qu'on est là. Et de quoi nous avons besoin le plus? Qu'est-ce que nous voulons demander à Dieu? Je vous laisserai prendre la réponse personnelle pour chacun. Je vous laisse le temps de réfléchir. Chacun peut. Oui, on ne va pas partager. Mais qu'est-ce que c'est? Quel est notre plus grand besoin pour accomplir notre destinée? Nous allons poursuivre la lecture de notre texte. Alors je vais laisser un petit peu le lecteur parce que il s'est arrêté au milieu, donc on reprendra le chapitre 4 avec l'enregistrement. Mais là je vais lire la suite du texte, chapitre 3, versets 16 à 28. Donc Salomon est à Jérusalem et il a reçu cette promesse de Dieu concernant le don de la sagesse. C'est alors que deux femmes prostituées vinrent chez lui, chez le roi, et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit « Pardon, mon seigneur, cette femme et moi nous habitons dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. Trois jours après, cette femme a aussi accouché, et nous habitons ensemble. Il n'y a aucun étranger avec nous dans la maison, il n'y a que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'est couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils qui était à côté de moi, pendant que moi, ta servante, je dormais et elle l'a couché contre elle. Quant à son fils qui était mort, elle l'a couché contre moi. Ce matin, je me suis levée pour allaiter mon fils et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement le moment venu. Et c'était pas mon fils, celui que j'ai mis au monde. L'autre femme dit, c'est faux. C'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, absolument pas. C'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. Et c'est ainsi qu'elle discutait devant le roi. Le roi constata, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. Et l'autre dit, absolument pas. C'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. Puis il ordonna, « Apportez-moi une épée. » On apporta une épée devant le roi. Le roi dit alors, « Coupez en deux l'enfant qui est en vie, donnez-en la moitié à chacune. » Alors la femme dont le fils était vivant fut remplie de compassion pour son fils et elle dit au roi, « Ah, mon seigneur, donnez-lui l'enfant qui est en vie, ne le faites pas mourir. » Mais l'autre répliqua, « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » Prenant la parole, le roi dit alors, « Donnez l'enfant qui est en vie à la première femme, ne la faites pas mourir, c'est elle qui est sa mère. » Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on éprouva de la crainte envers lui. En effet, on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer la justice. Cette deuxième partie porte pour titre « Quand la sagesse de Dieu » exerce la justice. Donc, quelle est la situation? Deux femmes qui s'accusent mutuellement d'avoir volé leur bébé naissant. Ce sont des prostituées. La prostitution est illégale en Israël. Et personne ne va dire, celle-ci, je la connais bien. On peut la croire. Non. Impossible de savoir quelle est celle des deux qui dit vrai et celle qu'il y faut, et il y a l'enjeu de ce bébé, de sa maman. Ce cas insoluble arrive à la plus haute des juridictions, du royaume, celle du roi Salomon lui-même. Salomon prononce un premier jugement pour dévoiler le cœur des deux plaignantes. Couper l'enfant en deux et que chacune en ait une moitié. Et la réaction de ces deux femmes va indiquer aux oreilles de tout le monde qui est la vraie mère. Ce cas qui était insoluble à trancher devient clair pour tout le monde, comme de l'eau de roche. La sagesse de Salomon a été manifestée en ce que les cœurs de ces deux femmes ont été mis à jour. Dieu a fait ce qu'il a dit. Salomon a reçu la sagesse de Dieu. Et on lit en Proverbe 8:15, « Par moi les rois règnent, les princes ordonnent ce qui est juste, par moi la sagesse gouverne les chefs, les grands, tous les juges de la terre. » Dieu a fait ce qu'il avait dit envers Salomon. La justice conduite par la sagesse de Dieu est admirable. Moi personnellement, vous peut-être aussi, vous auriez été être là lorsque ce jugement s'est exercé. C'est une histoire extraordinaire. Et peut-être aussi auriez-vous être parmi ceux qui côtoyaient le roi Salomon, ceux qui étaient de ses serviteurs, ceux qui écoutaient ses jugements, ceux qui le voyaient agir jour après jour avec la sagesse que Dieu lui avait donnée. La justice conduite par la sagesse de Dieu est admirable, mais elle est aussi redoutable. Si on relit le verset 28 du chapitre 3, tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on éprouva de la crainte envers lui. En effet, on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer la justice. Désormais, tous les Israélites vont réfléchir à deux fois avant de porter leur cas devant la justice du roi. Aujourd'hui encore, Dieu met en lumière les motivations secrètes du cœur. Et tôt ou tard, nous aurons affaire avec sa justice. Jésus nous a prévenus. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. La justice conduite par la sagesse de Dieu est redoutable. Non seulement Jésus est un roi et juge, mais il est aussi celui qui prend sur lui la culpabilité des pécheurs, de celui qui plaide coupable devant lui, de celui qui demande pardon. Jésus est un roi juge, juste. Jésus est rempli de sagesse. C'est lui qui rendra la justice au dernier jour. Et c'est lui aussi qui a donné sa vie en sacrifice pour les fautes, pour enlever la culpabilité. C'est le message de l'évangile dont nous nous sommes souvenus tout à l'heure en prenant le pain et le vin. Quand la sagesse de Dieu exerce la justice. Regardons la suite de notre texte, le chapitre 4. Et donc on va voir une partie du chapitre 5 également, suivant les versions de vos Bibles. La première page n'est pas le même.
Le roi Salomon régnait sur tout Israël. Voici les ministres qui l'assistaient. Azaria, petit-fils du prêtre Sadoc, Eliyoref et Aïa, fils de Shisha, étaient ses secrétaires. Josaphat, fils d'Aïloud, était archiviste. Benaïa, fils de Yehoiada, était le général en chef de l'armée. Sadoc et Abiathar étaient prêtres. Azaria, fils de Nathan, était chef des gouverneurs. Zabud, fils de Nathan, était prêtre et conseiller personnel du roi. Aïcha était l'intendant du palais royal et Adoniram, fils d'Abda, était préposé à la surveillance des corvées. Salomon nomma 12 gouverneurs sur tout Israël. Ils étaient chargés de pourvoir à l'entretien du roi et de tout le personnel de son palais. Chacun d'eux assurait le ravitaillement un mois par an. Voici leurs noms. Ben-Hur exerçait sa fonction dans la région montagneuse d'Éphraïm. Ben-Deker dans la région de Makat, à Shaalbim, à Beth-Shelash, à Elon et à Beth-Anan. Ben-Ezed à Arubot, dont relevait aussi Soko et tout le pays de Hefer. Ben-Abinadab dans toute la contrée de Dor. Il avait épousé Tafat, une fille de Salomon. Baana, fils d'Aïloud, gouvernait Taanak et Megiddo et toute la région de Beth-Shéan, qui est près de Tsartan, au-dessus de Jisréel, depuis Beth-Shéan jusqu'à Abel-Méola et jusqu'au-delà de Yokmeam. Ben-Geber résidait à Ramoth, en Galaad. Il était responsable de la région des villages de Yaïr, fils de Manassé, en Galaad, et de la contrée d'Argob, en Bassan, qui comprenait 60 grandes villes fortifiées, munies de remparts et fermées par des barres de bronze. Ahinadab, fils d'Ido, supervisait la région de Mahanaïm. Ahimaad, celle de Nephtali. Lui aussi avait épousé une fille de Salomon nommée Basmat. Baana, fils de Hushaï, était responsable en Azer et à Béaloth. Josaphat, fils de Paroua, en Issachar. Shimei, fils d'Ela, en Benjamin. Geber, fils d'Uri, dans la province de Galaad. Il gouvernait la contrée qui avait appartenu à Sihon, roi des Amoréens, et à Og, roi du Bassan. Il y avait de plus un gouverneur qui supervisait tout le pays. La population de Juda et d'Israël était alors aussi nombreuse que les grains de sable au bord de la mer. Ils avaient à manger et à boire, ils étaient dans la joie. Premier roi, 5. Salomon dominait sur tous les petits royaumes qui s'étendaient de l'Euphrate jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière de l'Égypte. Pendant toute sa vie, ses peuples lui apportèrent leurs tribus et lui restèrent assujettis. Chaque jour, Salomon recevait pour son entretien et celui de tout son personnel 9 tonnes de farine fine et 18 tonnes de farine ordinaire, 10 bœufs engraissés, 20 bœufs de pâturage et 100 moutons, sans compter les cerfs, les gazelles, les chevreuils et les volailles engraissées. Il exerçait sa domination sur tout le pays situé au sud-ouest de l'Euphrate, depuis Tifsa jusqu'à Gaza, sur tous les rois de ces contrées, et la paix régnait avec tous les pays alentours. Pendant toute sa vie, les habitants des territoires de Juda et d'Israël, de Dan à Beersheba, vivaient en toute sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier. Salomon avait 4000 écuries pour les chevaux de ses chars et 12 000 hommes d'équipage pour ses chars. Les gouverneurs pourvoyaient, chacun pendant son mois, au ravitaillement du roi Salomon et de tous ceux qui mangeaient à sa table. Ils veillaient à ce qu'il ne manque de rien. Il fournissait aussi, chacun à son tour et suivant sa route, de l'orge et de la paille pour les chevaux de trait et ceux des attelages de chars à l'endroit où se trouvait le roi. Dieu donna à Salomon une sagesse exceptionnelle, une très grande intelligence et une large ouverture d'esprit qui le fit s'intéresser à des questions aussi nombreuses que les grains de sable au bord de la mer. Sa sagesse dépassait celle de tous les sages de l'Orient et de l'Égypte. Il surpassait tous les autres, même Étan, l'Ésraïte, Eman, Kalkol et Darda, les fils de Maol. Aussi, sa renommée se répandit parmi tous les peuples voisins. Il fut l'auteur de 3000 proverbes et composa 1005 chants. Il a décrit les plantes, du cèdre du Liban jusqu'à la branche d'hysope qui pousse sur les murailles. Il a aussi parlé des animaux, des oiseaux, des reptiles et des poissons. Tous les rois de la terre qui avaient entendu vanter sa sagesse envoyaient des délégations de tous les pays du monde pour l'entendre.
Voilà, quand la sagesse de Dieu gouverne un pays. Quand la sagesse de Dieu gouverne un pays. On remarque ici et ailleurs dans la Bible que les bons rois dans la Bible ne gouvernent jamais seuls. Ça a été le cas pour le roi David et c'est également le cas ici pour le roi Salomon. La parole de Dieu se plaît à citer les proches des grands rois qui ont été fidèles à Dieu. Et vous retrouverez ça pour le roi Josaphat, Ézéchias, Josias. Ils n'ont pas gouverné seuls. Ils étaient entourés de fonctionnaires, de serviteurs donc, dont les noms sont cités, consignés dans la Bible pour l'éternité. Et ici, la liste est très longue, à la mesure de ce grand roi qu'a été Salomon. Salomon, on le voit comme un roi proche de ses serviteurs. Cette sagesse s'est manifestée immédiatement, la sagesse de Salomon s'est manifestée immédiatement, vous avez noté, après le rêve où Dieu lui a parlé. Chapitre 3, verset 15, il a remercié Dieu et il a, première décision qu'il a fait, il a fait un festin pour tous ses serviteurs. Il leur a fait bénéficier à eux tous de cette bonne nouvelle qu'il avait reçue, de ce don que Dieu allait lui faire. Non seulement cela, on voit qu'il donne un mariage ses filles, ses propres filles à ses serviteurs. Chapitre 4, verset 11. Le fils Abinadab, qui était responsable de toute la région de Dor, qui avait Tabat, la fille de Salomon, pour femme, et également au verset 15, Achimat, qui avait pris pour femme Basmat, la fille de Salomon, qui s'occupait de Nephtali. Ce devait être très agréable que d'être au service de Salomon. Plus loin, on voit dans la suite de livre, chapitre 10, verset 4, que on a parlé de tous ces gens qui venaient écouter, consulter Salomon, et la reine de Séba dit que elle a été épatée par les vêtements que Salomon donnait à ses serviteurs. Un roi proche de ses serviteurs. Des chiffres à la mesure d'un grand roi. Les chiffres des quantités d'aliments qui sont engloutis, entre guillemets, sont impressionnants. On est à tout l'inverse de ce que peut être une famine. On est vraiment dans l'abondance. Est-ce que ces chiffres sont crédibles? Oui, moi je pense. Quand on pense à tous les fonctionnaires, quand on voit la liste de tous les soldats, toute l'armée de métiers qui était là au service de Salomon, ben ça fait des bouches à nourrir, comme on dit. Il fallait vraiment beaucoup de biens pour assurer que ces personnes puissent manger chaque jour à leur faim. Me suis plongé dans le chiffre des 1000 holocaustes que Salomon a offert à Gabaon. J'ai fait un calcul là pour comparer à combien de viande de mouton on consomme en France. On est 2,6% de la viande consommée, c'est du mouton, donc très peu. Et on consomme 150 000 tonnes par an de viande de mouton. Pour 70 millions d'habitants, le roi David avait fait un recensement, peut-être qu'ils étaient 3 millions, si on considère qu'ils étaient 3 millions et demi en Israël, 20 fois moins qu'en France, cela fait quand même 7500 tonnes de viande de mouton. Si on compare ça, si on met les mêmes proportions, à 20 kilos le mouton, ça fait quelques 300 000 moutons par an qui étaient consommés facilement en Israël. Et donc, si on considère que Salomon était resté avec nombre de ses serviteurs une semaine à Gabaon, ben voilà, 1000 moutons, c'est un chiffre tout à fait réaliste, 300 000 moutons par an, quand on considère tout ce qui était consommé par 100 brebis par jour était noté ici, donc ça fait 30 000 par an, ça fait un dixième de tout ce qu'il y avait en Israël de consommer si on garde les mêmes proportions, donc il n'y a rien qui soit irréaliste. Les chiffres sont à la mesure d'un grand roi, en tout cas. Ce qui est frappant, c'est que c'est un roi qui accomplit le projet de Dieu. Chapitre 4, versets 20 et 21. Juda Et Israël était aussi nombreux que le sable qui est au bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Dieu avait promis à Abraham que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles, aussi nombreuse que le sable de la mer qu'on ne pouvait pas compter. Salomon dominait sur tous les royaumes situés entre l'Euphrate et le pays des Philistins et jusqu'à la frontière de l'Égypte. Ils apportaient un tribut à Salomon et lui furent assujettis toute sa vie. Et c'est sous le règne de Salomon donc que le pays d'Israël atteint sa taille maximale. Et donc on retrouve ici ce que Dieu avait annoncé en Genèse chapitre 15, verset 5, donc pour le nombre des descendants d'Abraham et verset 18 pour l'étendue de son pays. Un roi qui accomplit le projet de Dieu. Quand la sagesse de Dieu gouverne un pays. Jésus est notre grand roi et il est plus grand que Salomon. Luc 11, 31, Jésus a dit ceci, « Lors du jugement, la reine de Midi se lèvera avec les hommes de cette génération, les condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. » Et Jésus parlait de lui-même. Jésus est plus que Salomon. Son royaume et sa puissance sont bien plus vastes. Psaume 2, 6 à 8. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, dit l'Éternel, ma montagne sainte. Je publie les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Jésus est le grand roi. Notre bénédiction de le servir est plus grande que celle des serviteurs de Salomon de son temps. Salomon s'est allié par mariage avec deux de ses serviteurs. Jésus a fait alliance avec tous ses disciples, sans exception, par son propre sang. Salomon était proche de ses serviteurs. Jésus a dit ceci dans la chambre haute, l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 12 à 17. C'est ici mon commandement, dit Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Salomon était proche de ses serviteurs Jésus. L'est encore bien davantage. Le règne de Salomon dévoile un aperçu du règne à venir de Jésus. Tous les chrétiens ne sont pas d'accord sur ce sujet. Est-ce que Jésus va régner physiquement à Jérusalem avant le jugement dernier ou non? En tout cas, ce texte, moi personnellement, me donne envie de voir et de goûter cela, de voir les bienfaits de la sagesse de Dieu sur l'humanité entière. La sagesse incarnée de Dieu, Jésus-Christ, régnait sur l'humanité entière. Donc on verra ce qui va se passer au final. C'est pour l'avenir, nous aurons la joie de découvrir ça. Jésus, en tout cas, nous a laissé la parabole des 10 mines à Luc 19. Voici l'extrait de cette parabole, on la connaît bien, je pense. Cet homme qui va pour se faire investir roi et à son retour, Luc 19, 15, lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Et le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a apporté 10 mines. » Et il dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Conclusion. Aimons et servons Jésus, le sage, de tout notre cœur. Notre avenir avec Jésus, le grand roi, se prépare maintenant. N'hésitons pas à lui demander ce dont nous avons besoin pour le servir. Amen. Oui, Seigneur, merci de ce que nous pouvons te demander ce dont nous avons besoin. Et c'est auprès de toi que se trouve l'abondance de tout ce que nous pouvons avoir besoin. Il est certain que si une personne peut nous donner ce dont nous avons besoin, c'est toi. Et merci pour l'exemple de Salomon, pour l'exemple de sa demande que tu as exaucée. Fais aussi que nous autres, nous te demandions la bonne chose que tu vas exaucer pour nous. Merci de pouvoir servir Jésus-Christ aujourd'hui, de savoir qu'il se présente à nous comme un ami, lui qui est le grand roi de tout l'univers et qui nous fait la faveur de lire à travers la parole de Dieu ce qu'est sa sagesse, de lire à travers les évangiles ce qu'est sa vie et de nous laisser instruire dans cette sagesse. Merci que cette sagesse est disponible, qu'on peut la demander pour vivre notre vie de tous les jours telle qu'elle est, avec ses difficultés, avec ses défis, avec ses souffrances parfois, et aussi ces moments de joie et de bonheur. Merci que nous pouvons demander ta sagesse pour la vivre d'une façon pleine, complète, qui te soit agréable pour le bonheur également de notre prochain. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.